les lance, je tiens à offrir ces quelques paroles que je vais dire en hommage très fervent vis-à-vis de votre Excellence, qui donnait un grand exemple vis-à-vis de l'Église et pour nous tous. Veuillez assurer, bien sûr, de nos prières, comme beaucoup d'autres vous l'ont promis. Le sujet de cette causerie pourrait s'intituler « Essai sur la mentalité de Paul VI ». Ce n'est qu'un essai, bien sûr, mais enfin, on a des données qui permettent d'élaborer quelque chose qui n'est pas de la fantaisie, mais qui est solidement basé, me semble-t-il. Jean-Baptiste Henri Antoine Marie Montini, fils du docteur Georges et de Judith Alghisi, naquit le 26 septembre 1897, deuxième de trois garçons, à Concesio, près de Brescia. Son père, Georges, de petite noblesse, avocat, dirigea de 1881 à 1912 le journal Il Cittadino di Brescia. Il fut président de l'Union électorale des catholiques italiens, qui devait devenir le Parti démocrate italien et, après la dernière guerre, la démocratie chrétienne. Il fut élu député en 1919, en 1922 et en 1924. Jean-Baptiste le donnera comme le modèle des journalistes tout dévoués au service de la vérité, de la démocratie, du progrès, en un mot, du bien public. Nous lui devons, ajoutera-t-il, une très grande part de notre vie spirituelle. Sa mère, Judith Alghisi, douce et forte, secrète et intelligente, était présidente des femmes catholiques de Brescia. Et Jean-Baptiste dira d'elle, « Je crois devoir aussi beaucoup de moi-même à ma mère, dans ses manières de penser et de sentir. » Il fut baptisé le 30 septembre 1897, jour de la mort de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. De 1902 à 1914, il étudie à l'Institut Cesare a Ricci de Brescia, dirigé par les Jésuites, et fréquente l'œuvre de jeunesse des oratoriens de la paroisse Santa Maria della Pace. Plutôt souffreteux, timide et réservé, toujours pensif et absorbé dans son monde intérieur, mais brillant élève, passionnément épris d'études et de lectures, quelque peu distant. En 1916, à cause de sa santé, il continue de ses études en famille. En juin 1916, reçu au baccalauréat du lycée d'État Arnoldo di Brescia, il a exprimé en 1914 le désir d'être prêtre, mais demeure hésitant. Jean Guiton, dans son volume fort documenté, fort intéressant, Dialogue avec Paul VI, va nous dire un peu pourquoi il reste hésitant. Jean-Baptiste Montini, écrit-il, avait reçu à son berceau le don de sentir avec les hommes de ce temps, c'est-à-dire sympathiser comme spontanément avec les hommes de ce temps. Mais il y a plusieurs manières de sympathiser, ou disons plusieurs raisons formelles de sympathiser avec les hommes de ce temps. Jésus a sympathisé, mais par miséricorde. Lui sympathise, il se sent comme d'accord avec le monde. Il est épris de l'homme moderne tel qu'il est. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre cette expression. Donc de sentir avec les hommes de ce temps. Il me semble, continue dit-on, que sa première vocation avait été du type laïque. Vocation de vie dans le monde, au milieu du monde, avec les vibrations du monde. Et dit-on l'imagine avouant, je ne me sentais pas porté vers la cléricature qui m'apparaissait souvent sous des formes statiques, renfermées, cherchant à maintenir plutôt qu'à promouvoir, impliquant aussi un retranchement de toutes les tendances mondaines dans la mesure où le monde est condamné. À cause de ses hésitations, de sa santé aussi, de 1916 à 1920, il suit comme externe les cours du séminaire de Brescia. Il ne prend la soutane que le 21 novembre 1919. Mais de 1918 à 1925, il collabore assidûment, abondamment, à la Fionda, la Fronde, bulletin de l'association des étudiants bressians Alessandro Mazzoni. Cependant, il est ordonné prêtre le 29 mai 1920. Ce n'est généralement pas sans dommage qu'un jeune homme accède au sacerdoce sans avoir respiré longuement l'atmosphère ecclésiastique du séminaire. Il y a là une certaine mentalité qu'on ne trouve pas ailleurs. En 1920 encore, il passe le doctorat en droit à la faculté du séminaire de Milan. De 1920 à 1924, il poursuit ses études supérieures à Rome, logeant au séminaire lombard. Il s'inscrit à la faculté de philosophie de la Grégorienne, à la faculté des lettres de l'Université de Rome. On aimerait savoir quel esprit y régnait et comment l'abbé s'y donnait. On note qu'il s'appliquait à discerner et à récupérer tout ce qui était bon, vrai et valable dans la pensée moderne, et qu'aux attaques antireligieuses, il répondait sur le terrain de l'adversaire, au nom du sens commun et de l'expérience directe du monde concret. Enfin, il gardera une naturelle, secrète et constante nostalgie pour tout ce qui concerne l'université et ses problèmes spirituels et culturels. En novembre 1921, il entre à l'Académie pontificale et il prépare à la diplomatie. Il y restera jusqu'à 1926. Il laisse le cours de philosophie, dont il recevra cependant le doctorat. Il s'inscrit en deuxième année à la faculté de droit de la Grégorienne. Il est aussi auditeur libre à l'Institut du double droit utriusque iuris du Latran en 1923-24 et il devient docteur en droit civil. Mais en 1923, de mai à octobre, il est attaché à l'Annonciature de Varsovie. En décembre, il est nommé assistant ecclésiastique du Cercle universitaire catholique de Rome, qui fait partie de la Fédération universitaire catholique italienne, la FUCI. À l'été 1924, il fréquente les cours de langue et littérature française à Paris, à l'Alliance française. En octobre 1924, il entre à la secrétairerie d'État, sous le cardinal Gaspari. En 1925, il devient minutante. En octobre, camerier secret surnuméraire. Également en octobre, il est assistant ecclésiastique national de la FUCI. Jusqu'à la fin de l'hiver 1933, il y déploie une très grande activité, nombreux écrits, surtout le volume intitulé « Coscienza Universitaria ». En 1930-33, Il enseigne l'histoire de la diplomatie pontificale à l'Institut Ustrius Qui Iuris et il fait un exposé de la doctrine catholique aux laïcs. Le 13 décembre 37, il est substitut de la secrétairerie d'État et secrétaire du chiffre. Le 24 décembre 37, il est consulteur du Saint-Office et de la consistoriale. Du 22 au 31 mai 1938, il accompagne le légat Pacelli au congrès eucharistique de Budapest. Durant la guerre 39-45, il déploie une très grande activité pour les échanges de prisonniers. Le 29 novembre 52, il est prosecrétaire d'État avec Mgr Cardini. Le 1er novembre 1954, il est nommé archevêque de Milan, consacré le 12 décembre, et il entrera à Milan le 5 janvier de l'année suivante. On voudrait plus de renseignements sur les caractères de l'action qu'il exerça sur les étudiants. Mgr Pignedoli, il le connut bien alors, a noté qu'il avait en ces jeunes une confiance qui, sans être ingénue, en donnait parfois l'impression. Prêchant l'universalité de la charité, il disait que toute créature attend Jésus-Christ et peut entrer sur les chemins de la rédemption. Que le christianisme est amour avant d'être témoignage conquérant. Renoncement de soi-même avant d'être victoire sur les autres. Reste à bien comprendre le renoncement. Naturellement, il garde ses principes à la secrétairerie d'État, où il fut nommé substitut, comme je l'ai dit, en 37, et prosecrétaire avec Mgr Tardini en 1952. Mais l'interprétation aberrante qu'il en fit de ses principes le conduisit à rencontrer secrètement, le 10 juillet 1944, le chef du Parti communiste italien, Togliatti, rencontre où fut élaboré un plan d'entente entre la démocratie chrétienne et le Parti communiste, et où furent tracées les lignes fondamentales d'un accord éventuel entre le Saint-Siège et la Russie soviétique. C'était trahir la consigne de Pie XI, aucune collaboration d'aucune sorte avec le communisme. On est à même de calculer aujourd'hui ce qu'a coûté à l'Église et au monde entier cette orientation. Deuxième fait très grave, mais bien dans la logique du précédent, il est certain que Mgr Montini fut écarté de la secrétairerie d'État à la fin des 1954, après que Pie XII eut pris connaissance d'un dossier rapporté de Suède et relatif à des tractations entre le Vatican et les Soviets. J'ai interrogé à ce sujet M. Virillon, qui aussitôt m'a envoyé une lettre et me disant « Je suis certain de ce que j'avance, car je le tiens de l'officier français, le colonel A. » il ne donne que l'initial, qui fut envoyé par Pie XII, qui l'avait comme ami, qui fut envoyé en Suède, et qui là rencontra un évêque protestant qui lui-même entretenait un réseau d'agents en Russie soviétique, réseau dont il se servait pour faire passer de la littérature soit catholique, soit protestante. Et lorsque le colonel est arrivé, à brûle-pourpoint, l'évêque protestant lui a dit « Et où en sont les relations entre le Vatican et les Soviets ?» Le colonel répondit « Mais évidemment, il ne peut pas y en avoir. » L'évêque lui dit « Voulez-vous venir me voir demain matin à mon petit déjeuner, à une heure qu'il fixa ?» Ce qui fut fait. Et le lendemain matin, quand le colonel arriva, L'évêque lui dit, voulez-vous prendre connaissance de ce dossier? Le colonel parcourut. Et après cela, il lui dit, Monseigneur, voulez-vous cacheter vous-même la lettre et y mettre le sceau de vos armes? Arrivé au Vatican, il passa évidemment le dossier à Pie XII et qui, pendant quelques jours, garda le silence total. Après cela, le secrétaire de Monseigneur Montini fut réduit à l'état laïque. Et le 1er novembre, Monseigneur Montini était nommé archevêque de Milan. Fait très grave, bien entendu. Cela étant, la suite de la politique de Paul VI par rapport aux pays communistes ne surprend pas. Il restera lui-même en accueillant cordialement les oppresseurs des catholiques, en sacrifiant honteusement à leurs exigences le cardinal Hero Mincenti, en favorisant partout l'impérialisme de ces tyrans, sous prétexte de libération des peuples. Sans nul doute, pour agir de la sorte, on sombre dans l'ignominie et la trahison. Arrivé à Milan, comme j'ai dit, le 5 janvier 1955, il se révèle bientôt profondément imprégné de l'idéologie moderniste. Et remarquons bien, car c'est important, qu'il ne subit pas de pression, mais qu'il s'exprime lui-même, et on le verra, avec ferveur. Il dit en 1954, au deuxième congrès mondial pour l'apostolat des laïcs, « Le génie de l'apostolat, c'est de savoir aimer. Nous aimerons donc ceux qui nous sont proches, et nous aimerons nos frères lointains. Nous aimerons ceux qui méritent d'être aimés et ceux qui ne le méritent pas. Ils ne voient donc pas et que la charité sans la prudence n'est plus de la charité, mais de la bêtise, et bien souvent de la complicité. Qu'on en juge par ce qu'il ajoute. Nous aimerons notre temps, notre civilisation, notre technique, notre art, notre sport, notre monde. Nous aimerons, en nous efforçant de comprendre, de compatir, d'estimer, de servir, de souffrir, nous aimerons avec le cœur du Christ. Dangereux équivoque, condamné par la sentence inspirée, qui dit « N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » C'est terrible. Cet étrange langage de l'archevêque n'est sûrement pas chrétien. Il l'est d'autant moins qu'il ose dire en 1956 « Notre époque ne pourrait-elle pas avoir une épiphanie qui corresponde à son génie, à ses capacités? La merveilleuse évolution scientifique de notre temps ne pourrait-elle pas devenir cette étoile, ce signe qui lance l'humanité moderne vers une nouvelle recherche de Dieu, vers une nouvelle découverte du Christ? On croirait entendre un franc-maçon exigeant que l'Église s'aligne sur le génie de notre époque. Comme si l'Église n'était pas immuable essentiellement. On n'a pas la foi quand on parle ainsi. Lui, cependant, insiste. Beaucoup d'aspects de la vie moderne peuvent être interprétés comme des prédispositions providentielles au message évangélique. Il suffit d'avoir l'intuition des signes du temps pour s'en apercevoir. Le miracle de l'unité des cœurs aura raison de nos ennemis, et ce sera lui qui leur parlera le plus du règne de Dieu. Il dira en 1956 qu'il aspire à un grand dialogue avec le monde moderne. Dialogue pas vain. Si, d'une part, c'est l'amour qui crie, et si de l'autre, le bon sens courtoisement écoute et répond. Voyez son aveuglement. Il rêve d'unité en rompant avec l'Église et en s'alignant sur le monde antichrétien. Nouvelle recherche du Christ. On ne l'a pas trouvé jusqu'ici? Faisons attention, n'est-ce pas, à ces mots. Ça passe comme ça, comme tranquillement. Regardez donc ce qu'il y a en dessous. Vous avez le dénigrement de toute l'Église du passé. Et le thème reviendra très souvent. Écoutons-le dans un congrès en septembre 1958, avant le concile. Hein? L'Église cherche à s'adapter au langage, aux coutumes, aux tendances des hommes de notre temps, tout absorbés, ces hommes, par la rapidité de l'évolution matérielle et tellement exigeants pour leur particularité individuelle. Cette ouverture est dans l'esprit de l'Église. Dans l'esprit de l'Église, et juste à l'encontre. Que disait Pie IX dans le Syllabus, 8 décembre 1864, proposition numéro 80, il condamnait l'assertion suivante. Le pontife romain peut et doit se réconcilier et composer avec le progrès, avec le libéralisme, avec la civilisation moderne. Et Saint Pie X, perspicace s'il en fut, prévient un groupe de cardinaux le 27 mai 1914. Nous sommes, hélas, en un temps où l'on accueille avec une grande facilité certaines idées de conciliation de la foi avec l'esprit moderne. Idées qui mènent beaucoup plus loin qu'on ne pense, non pas seulement à l'affaiblissement, mais à la perte totale de la foi. Il y a un mot technique et pour exprimer la perte totale de la foi, l'apostasie. En opposition scandaleuse avec l'enseignement grave de ces papes, qui ne sont pas les premiers venus, parce qu'ils sont bien dans l'axe de la tradition, et c'est ça qui compte pour un pape. Sa mission, c'est précisément de respecter la tradition, de la bien conserver, de la bien transmettre à son tour. Donc en opposition scandaleuse, avec l'enseignement grave de ses papes, l'archevêque préférait écouter son utopie démocratique. Et il ajoutait, les confins de l'orthodoxie ne coïncident pas avec ceux de la charité pastorale. La charité pastorale, continue-t-il, charité pastorale de l'Église à l'égard de ceux qui sont loin s'exprime en un mot, rapprochement. Il développe, qu'ils soient étrangers et hostiles, parfois même fourbes et cruels, c'est leur affaire, non pas celle du bon pasteur qui doit les considérer toujours comme des fils de demain. Je commente. Est-ce que la charité ne doit pas respecter l'orthodoxie de la foi? Est-ce que la foi ne doit pas être sa lumière? Il a guide. La charité n'est point inconsidérée, dit saint Paul. Elle est très prudente. Elle ne fait rien d'inconvenant. Elle est très prudente puisque notre Seigneur nous recommande une prudence de serpent comme il s'y est à ce qu'il envoie, tel des brebis parmi les loups. La pastorale montignienne est aberrante. Semblable à la philanthropie maçonnique, elle suppose une certaine indifférence pour la vérité, puisque elle veut déborder les limites de la foi. Va-t-elle sacrifier la foi sous prétexte de charité? Et nous remarquons bien cela de nos jours. Qu'est-ce qu'on ne fait pas au nom de la charité? La charité est synonyme, très souvent, vous n'avez qu'à le remarquer, synonyme d'indifférence au point de vue religieux. La charité, c'est encourager le bien-être matériel, encourager le matérialisme, encourager tous les instincts par charité. Comme on me disait dans ma communauté, Père Simon, par charité, fumez donc aussi un peu après le repas. Et j'ai répondu, on n'a pas besoin d'être encouragé. Est-ce que c'est de la charité, ça? Faisons attention à ces mots. C'est l'hypocrisie du modernisme, l'hypocrisie de la franc-maçonnerie, l'hypocrisie des adversaires de l'Église catholique. Ils savent toujours présenter leurs marchandises avariées, pourries, sous des mots alléchants, liberté, égalité, fraternité, progrès. Et nous sommes dupes assez facilement. Avec cette espèce d'indifférence pour la vérité, mais cette charité condamne la manière de faire de Jésus à l'égard des pharisiens. Il est intraitable. Lisez le chapitre 23e de saint Matthieu, par exemple. Malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur à vous, malheur à vous. Ce n'est pas de la charité. De nos jours, il n'y a pas de doute, on dirait, comme il manque à la charité. Mais il est nous apprendre ce que c'est que la véritable charité. Bref, cette fausse charité néglige la vie que Jésus nous mène et nous donne de nous méfier du levain des pharisiens, des gens à peau de brebis, mais à intérieur de loup. Bref, elle mène à l'apostasie et au désastre. Dans ce sens, le cardinal va jusqu'à méconnaître des faits évidents, à preuve qu'il dit en septembre 1960, avant le concile toujours, à la différence de beaucoup d'autres conciles, le second concile du Vatican se réunit à un moment pacifique et fervent de la vie de l'Église. Il n'est pas difficile. Celle-ci n'a pas de problème négatif interne à résoudre. Elle a des développements positifs internes à promouvoir. Mon Dieu, je ne suis pas un génie, mais j'étais tout de même tourmenté depuis longtemps, et parce que je voyais dans l'Église et les courants modernistes qui se répandaient un peu partout. Et bien des fois, je me suis dit, qu'est-ce que Rome attend pour renouveler la condamnation de Saint Pie? Pas de problème. Il va d'ailleurs se contredire bientôt, vous allez le voir. Il y a là, je dis, un aveuglement déconcertant, ou bien un cynisme satanique. Devenu Paul VI, il répétera dans Ecclesiam Suam, 1964, « Maintenant, il ne s'agit plus d'extirper de l'Église telle ou telle hérésie déterminée ou certains désordres généralisés. Grâce à Dieu, il n'en règne point au sein de l'Église. » C'était contredire toute l'encyclique Humani Generis. Le 12 août 1950, dans laquelle Pie XII, imitant Saint Pie X, réprouvait, c'est le sous-titre, certaines opinions fausses qui menacent de ruiner les fondements de la doctrine catholique. Il n'y a rien de négatif, non? Mais c'est incroyable. Puisqu'on nous oblige à choisir Nous préférons ces deux papes, fidèles témoins de la tradition, à un cardinal qui les contredit scandaleusement. Qui nie des faits évidents, aveuglé qu'il est par l'idéologie maçonnique. Fort de la confiance que lui fait Jean XXIII, il était son grand conseiller, et Jean XXIII lui donnera un logement au Vatican même pour l'avoir tout près de lui pendant la première session du Concile. Vous le savez bien, et c'est lui qui a écrit le discours d'ouverture du Concile. Donc, fort de la confiance que lui fait Jean XXIII, il entend imposer son idéologie au Concile. Il dit « L'Église se propose par le prochain Concile d'entrer en contact avec le monde. » Encore une insinuation qui, dans le fond, est impie. Est-ce que l'Église n'aurait pas été en contact avec le monde jusque-là ? Il vous glisse ça en passant. Oui, c'était ignoble. Vous discréditez l'Église du passé, comme tous les modernistes. Ils sont bien obligés de discréditer ce qui existait avant eux, puisqu'ils se posent comme rénovateurs. Mais entendez le mot rénovateur, renouveau, au sens de bouleversement, subversion. Le communisme aussi veut le renouveau. La Révolution française, elle voulait le renouveau aussi. Mais toujours la même inspiration. Bien sûr, son ouverture au monde est suspecte. Jugez-en. L'Église, dit-il, rappellera au monde son message de dignité humaine, de loyauté, de liberté, d'amour, de courage, de sacrifice. Programme simplement humain. C'est pas l'Église, ça. Un franc-maçon dit la même chose. Ce programme simplement naturel méconnaît la mission de l'Église. Et personne ne prêche mieux la dignité humaine que l'Église, en prêchant le surnaturel, en prêchant le règne de Dieu. Comme conséquence, vous avez la mise en place, la mise en ordre et de tout ce qui dépend de l'amour de Dieu. Tout est informé. Prêchez, cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît. La mise en ordre de toute l'humanité. Et je vous en ferai la preuve en vous faisant une conférence sur Saint-Louis. Un problème qui a régné d'après les principes chrétiens. La France n'a jamais été si en ordre, si en paix, que sous le Saint-Roi. Il n'y a pas de vie. L'Église n'a pas comme objet direct le temporel, mais le bon aménagement moral, civil, le bon aménagement découle nécessairement d'un esprit chrétien. Formez-moi un bon catholique, vous pouvez le mettre n'importe où, il va bien faire. La suite aggrave la mauvaise impression. Pour y arriver, dit-il, l'Église se mettra à jour, en se dépouillant, s'il le faut, de quelques manteaux royaux restés sur ses épaules souveraines pour se revêtir plus simplement et conformément au goût moderne. Le goût moderne doit donc faire loi dans l'Église. Exactement le mot signalé par Saint Pie X. Idée de conformer l'Évangile à l'esprit moderne. Et c'est ça qui mène à l'apostasie. Saint Paul, dans ce cas, aurait tort d'écrire « Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais plus le serviteur de Jésus-Christ. » Cette incompatibilité est dépassée, paraît-il, maintenant. Et ce manteau royal, dont il a parlé, s'il vient de Jésus-Christ, mais c'est sacrilège de vouloir l'abandonner. Le souhaiter, même, c'est un sacrilège. On sait aujourd'hui ce que recouvrait le chantage à l'église des pauvres. Quel vandalisme et quelle fureur iconoclaste ont dépouillé nos églises. On sait ce que le dépouillement conforme à l'esprit moderne a fait faire à Paul VI. Vente de la tiare, platitude à l'ONU maçonnique, à Genève protestante, platitude devant des dignitaires schismatiques ou hérétiques, port de l'effort judaïque, accusation d'énigrement de l'église. Autant de scandales qui suintent le reniement et l'apostasie. Seul l'enfer peut les inspirer. Pourtant, le cardinal insistait, il faudra que dans un monde en marche, aux aguets et inquiets, qui sans le savoir, arculons, avance vers le Christ. La voix des pasteurs ne change pas la direction de ces pistes généreuses du monde. Et imbiber ces pistes de sueur, mais qu'elles disent avec un accent qui ne trompe pas et fait vibrer les cœurs humains, retourne-toi et regarde, le Christ est là, dans le monde. Et vous trouvez cette littérature chez les orateurs francs-maçons. C'est classique, s'enthousiasmer pour le progrès moderne, l'humanité renouvelée. On n'en croit pas ses yeux, tant est profonde et obstinée l'opposition à la mission surnaturelle de l'Église. Il faudra, dit-il, c'est impérieux. Il faudra que les pasteurs, le pape en tête bien sûr, s'engagent sur les pistes du monde en marche, qui sans savoir, arculons, avancent vers le Christ. Qu'est-ce que ça signifie? Mais il y a là par-dessous une espèce d'absolution du monde. L'évangile traditionnel n'est plus la loi de l'humanité. C'est lui qu'il faut conformer à l'esprit du monde en marche. En d'autres termes, Jésus-Christ, roi de l'univers, doit se subordonner au prince de ce monde des ténèbres. Voilà le reniement et la profession quasi dogmatique de l'apostasie maçonnique. Attention à ce qu'il dit. Le monde en marche avance vers le Christ. Le Christ est là. C'est du théiardisme. Avec son maître théiard, il imagine Jésus-Christ comme le centre de coïncidence, il a ces mots, et de synthèse de l'univers en évolution, et comme le point d'aboutissement de l'évolution. Voir si vous voulez numéro 22 de Fort dans la foi, page 214 et 219, et tout le numéro 14. Intitulé Théiard l'apostat. En conformant ainsi l'Église au monde, il pense récupérer des valeurs égarées, mais chrétiennes d'origine ou de droit, et opérer la consécration du monde. Il appelle ça la consécration du monde. Il a perdu le sens chrétien jusqu'à se plaire dans ses blasphèmes et ses sacrilèges. Le pauvre cardinal s'en alla au concile tout à l'espoir que son utopie s'accomplirait. Il écrit « L'Église, j'ose du moins le penser, dénoncera une fois de plus le matérialisme sous toutes ses formes, particulièrement celui de notre époque. J'ose penser qu'elle le fera. » Mais ici, il n'y a plus de réserve. Mais elle ne désavouera pas la merveilleuse et gigantesque civilisation de la science, de l'industrie, de la technique, de la vie internationalisée de notre époque. Bien au contraire, elle s'efforcera de l'assumer en lui donnant pour base des principes solides qu'elle cherche en tâtonnant et en lui ouvrant au sommet des horizons de vérité spirituelle, de prière et de rédemption qu'elle seule peut donner. On connaît le mot de Jean Guiton dans ses dialogues avec Paul VI. Jamais, avant d'avoir entendu Paul VI, Je n'avais entendu parler du monde avec un tel accent d'admiration, de ferveur. Toujours Guiton. C'est l'homme moderne qui se propose en lui. Cela est extraordinaire. Et il commente. Car les papes n'ont pas la tâche de se rendre semblables à l'homme de leur temps. Surtout à cet homme déconcerté qu'est l'homme de notre époque. Extraordinaire ici, le mot employé par Guiton pourrait bien équivaloir à choquant. Et cela rappelle encore la sentence que j'ai déjà citée. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Non, il ne peut pas s'y trouver. La foi même n'y demeure plus. Tant cette admiration et cette ferveur la contredisent et méconnaissent la révolte contre Dieu inhérente à ce monde maçonnique. N'est-ce pas choquant, scandaleux, d'entendre cet homme déclarer dans la basilique Saint-Pierre en inaugurant la deuxième session du Concile, que le monde le sache, l'Église le regarde avec une profonde compréhension, avec une admiration sincère, sincèrement disposée, l'Église, non à le subjuguer, mais à le servir, non à le déprécier, mais à le mettre en valeur, non à le condamner, mais à le soutenir et le sauver. Comprenez? Non, je dis, ce n'est pas l'Église qui tient ce langage. Elle ne renie pas son maître ni sa tradition. C'est lui qui l'a trahi odieusement à la face de l'humanité, se révélant lui-même imprégné jusqu'en son fond de l'idéologie maçonnique antichrétienne. Dans un article récent, Louis Salleron écrit « Au plan humain, Paul VI est viscéralement démocratique et libéral. Il est de la famille des Jean-Jacques Rousseau, des Lamennais, des Marxagnés. Il y a des phrases chez lui que l'on dirait prises telles quelles dans Marxagnés. Et à ce sujet, je vous recommande fort de lire très attentivement la lettre de condamnation du Sillon, 25 août 1910, par Saint-Pédis. Toute cette idéologie-là, c'était l'idéologie du papa dans son action sociale. Il faut relire ici. Donc la lettre de Saint-Pédis condamnant le Sillon, après avoir montré que ce mouvement convoie le socialisme, ayant l'œil fixé sur une chimère. Hélas, continuait le Saint-Pape, le Sillon qui autrefois donnait de si belles espérances, ne forme plus dorénavant qu'un misérable affluent du grand mouvement d'apostasie organisé dans tous les pays, pour l'établissement d'une Église universelle qui n'aura ni dogme, ni hiérarchie, ni règles pour l'esprit, ni frein pour les passions, et qui, sous prétexte de liberté et de dignité humaine, ramènerait dans le monde le règne légal de la ruse et de la force et l'oppression des faibles, de ceux qui souffrent et qui travaillent. Regardons autour de nous. De là la confusion de son pontificat, toujours Salleron qui écrit. Son évangélisme s'incarne dans une bienveillance universelle qui l'étend indifféremment à tous les hommes. Il ne veut pas que son credo soit une barrière entre lui et ceux qu'il ne professe pas. Nous remarquons en passant, le credo n'a rien d'une barrière. Vérité venue de Dieu, il s'adresse à tous les hommes, leur apprend qu'ils sont fils de Dieu et frères de la fraternité la plus vraie et la plus profonde en Jésus-Christ. Ce sont les hommes qui font barrière à cette vérité libératrice en lui préférant l'erreur et l'égoïsme diviseur. Mon credo même, ma foi catholique, m'enseigne une bienveillance universelle, mais judicieuse et hiérarchisée. Il y a une hiérarchie dans la charité, lisez saint Thomas à ce sujet. Une bienveillance éclairée qui ne sacrifie pas la vérité ni la justice, ce qui serait encourager le mal. Mon credo me veut bienveillant envers tous les hommes, mais pas indifféremment comme notre cardinal, ni en reniant la vérité comme il le fait avec sa propension vers la pseudo-église universelle maçonnique. Louis Saleron continue son diagnostic de Paul VI. Jacques Maritain est la référence immédiate de son humanisme intégral. Il le traduisit en italien d'ailleurs. Mais au-delà de Maritain, on sent la séduction qu'exerce sur lui Teilhard de Chardin, qui prolonge le mouvement de l'histoire dans une courbe de l'évolution se terminant par le triomphe du Christ total. Il vous additionne le monde et Jésus-Christ. Et l'évangile a pour rôle, dans l'idéologie de Teilhard, l'évangile a pour rôle d'être animateur de l'humanité dans l'évolution générale. Nous sommes tout à fait hors de l'horizon catholique. Mais Teilhard parlera beaucoup de Jésus-Christ. Par moment, vous croiriez, c'est un mystique. Et c'est une mystique diabolique. Lisez le volume le numéro 14 de Forme en la foi. Je cite continuellement Teilhard. Ce Christ, n'est-ce pas, dont il est question, n'est plus du tout la personne divine incarnée, mais une insaisissable idéalisation de l'évolution elle-même. Monsieur Saleron dit bien, autrement dit, son démocratisme sublimé dans son évangélisme, une certaine teinture d'évangile, s'achève dans un prophétisme de nature plus ou moins gnostique. Il n'y a pas de doute que la remarque de saint Paul trouve à s'appliquer de nos jours. On se détourne de la vérité pour verser dans des mythes. On refuse la vérité qui est rectitude, mesure, équilibre, bon sens, et l'on plonge dans l'idéalisme et dans les chimères déraisonnables auxquelles il expose. C'est donc grave, très grave pour nos chefs dans l'Église de se détourner de la mission promulguée par Jésus-Christ et transmise à travers les siècles par la tradition sainte assistée du Saint-Esprit. L'esprit de lumière refusé, on s'assujettit à l'esprit du monde, au prince de ce monde et des ténèbres, aux puissances par lesquelles il gouverne, toujours menteur, ce qui aime mieux les ténèbres que la lumière, et qui s'engage ainsi dans la voie large de la perdition, très fréquentée, très peuplée, comme nos avenues et nos boulevards. Désirant lancer l'humanité moderne vers une nouvelle recherche de Dieu, vers une nouvelle découverte du Christ, l'archevêque de Milan se devait de mettre la liturgie dans le mouvement. Sa lettre pastorale du Carême 1958 porte sur l'éducation liturgique. Il y présente la liturgie comme problème central de la vie pastorale aujourd'hui. Déjà cet adverbe « aujourd'hui » insinue le besoin de se distinguer du passé. Elle n'était pas centrale autrefois, non? Il faut toujours protester. Quand on a ces réflexions qui dénigrent plus ou moins l'Église du passé. Je ne veux pas qu'on y touche. Et faites bien attention à ce que je dis. L'Église, telle que Jésus-Christ l'a constituée, avec sa doctrine, impeccable, avec sa structure sacramentelle, dans sa structure même comme société, irréprochable, avec ses moyens de sanctification, les sacrements, irréprochables, avec sa morale, inattaquable. Elle est sainte, l'Église. Et faisons attention à notre langage. Ne disons pas, oh mais l'Église maintenant elle fait ça, l'Église fait ça. C'est pas l'Église qui fait ça, ce sont les hommes d'Église infidèles à leur mission. Les hommes d'Église fidèles à leur mission ne font que du bien. Mais disons pas l'Église quand il ne s'agit que des hommes d'Église. Ah non, il faut respecter l'œuvre de Dieu, la société fondée par Jésus-Christ, et la respecter à tout point de vue. Elle est sans reproche. L'épouse immaculée, sans tache, toute lumineuse. Et il est bon, et je crois très opportun, d'insister là-dessus. C'est continuellement, Dieu, l'Église aujourd'hui change. Voyez-vous, l'Église, et c'est pas l'Église. Il n'a pas besoin de changer. Il dit changer dans sa structure, soit doctrinale, soit sanctificatrice, soit morale, soit même comme société. Et Dieu a fait de l'éternel. Il n'a pas fait une société soumise à la mode. On veut nous donner toujours de diverses manières cette impression que l'Église, après tout, n'est qu'une société comme les autres. Il n'a qu'à changer comme les autres. Eh bien non, c'est sacrilège. La prière liturgique, dit-il, doit redonner à l'Église une conscience de soi plus profonde et plus pure, une aptitude plus facile et plus aimable à attirer les âmes vers le charme et la régénération de l'union à Dieu. Plus profonde, plus pure, plus facile et plus aimable, tous ces traits impliquent un discrédit du passé. Discrédit obligé pour le réformiste, mais impie. Encore ceci. Il faut, dit-il, que notre vie spirituelle s'enrichisse d'une nouvelle intériorité et d'une nouvelle conversation avec Dieu. Il ne dit pas renouvellement intérieur. Dans la conversation avec Dieu, qu'est-ce que c'est que cette intériorité? Remarquez aussi cette manie de remplacer notre langage traditionnel, surnaturel, par des mots naturels, prétendument, parce que ce sera mieux accueilli. En réalité, il bouleverse notre notion traditionnelle. Gardons notre langage traditionnel. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle conversation avec Dieu? Les saints ont besoin d'être renouvelés, oui. Qu'est-ce que nous avons à apprendre? Nous avons nos maîtres spirituels. On se renouvelle, oui, en buvant à cette bonne source traditionnelle, et c'est le bon moyen de se renouveler. On n'a qu'à voir les saints. Ce n'est pas des robots, les saints. On n'en avait pas deux semblables. Ils sont semblables quant à l'essentiel, mais ça veut dire que chacun est une personnalité bien marquée. Voyez-vous? C'est des types bien plantés, ça ne sent pas le robot. Saint-Esprit, c'est varié. Et voici les réformes concrètes dans son instruction pastorale. Répétons-le, il agit spontanément. Il n'est pas forcé. Il faut inculquer à tous le sentiment d'une action commune dans la liturgie, à savoir d'une participation. Le sens communautaire, dit-on aujourd'hui, c'est lui qui parle. Faire participer les fidèles au culte lui-même. Au culte lui-même. Les fidèles deviennent les promoteurs du culte quand ils y sont associés. Et nous savons tout ce que ça a donné. Il faut, c'est pas facultatif, impérieux. Il n'y a pas de raison, ils ne peuvent pas apporter de raison à ce changement. Alors, il faut. Et de notre côté, je fais obéissance aveugle. Mais tant que j'ai des yeux, je vais m'en servir. On commande. La liturgie ne sera plus une école de contemplation, un sursum corda en Dieu. On la centrera sur l'homme. Elle sera action commune. Avec participation commune. Et ça nous a donné invasion du sanctuaire par les laïcs, y compris les femmes. Mieux, suppression du sanctuaire. On est bien mieux ensemble, en commun, quand le prêtre est dans la main. Et on détruit le sacerdoce. Pourquoi pas, après tout, la vague de féministes arrivant par là-dessus, ça va très bien, l'Église s'allume. Suppression du sanctuaire, notre messe sera définie réunion communautaire. Ah, c'est à la portée de tout le monde, il n'y a plus de mystère. Au total, ruine du sacré, du culte de Dieu, au profit d'un pseudo-culte de l'homme, triomphe de la maçonnerie. Nous n'aurions pas lu tout cela dans les directives de l'archevêque promu cardinal le 15 décembre 1958. Mais les développements qui ont suivi nous permettent de dire qu'elles les impliquaient et que donc leur auteur connaissait et sans doute soutenait le plan de subversion tramé contre l'Église catholique. Il va le dire d'ailleurs qu'après le vote de l'acte du Concile sur la liturgie, il continue dans les réformes. Application pratique, choisir d'excellents lecteurs pour faire les lectures en langue du pays, au Metz-Basse. Un prêtre si possible, sinon un laïc, une religieuse, même un enfant. Vous voyez, si on aura besoin de lui forcer la main pour la liturgie, tous les changements sont là. La tradition ne compte pas. Voyons. Or, la tradition est une des sources de la révélation. Elle est sacrée. Quand une chose est bien établie traditionnellement, et on ne doit pas y toucher. Il n'y a qu'à la vénérer, il n'y a qu'à réfléchir, on trouve que c'est beau. La fantaisie domine. Il faudrait ne pas connaître les hommes pour espérer, dans cette voie, éviter les extravagances et les folies. Évidemment, le Saint-Esprit n'inspire pas ce dédain de la tradition, ni ses fantaisies. On aura beau dire, nous sommes des charismatiques. Charismatiques, ça sent le diable, et puis c'est tout. L'archevêque allait plus loin, écrivant, « Le lecteur annoncera les diverses parties de la messe, indiquera les attitudes à prendre. » Annoncera discrètement à l'offertoire, au memento, des intentions recommandées. Et nous voilà dans la parlotte. Voyez-vous? Parce que vous pensez bien, il ne dit pas des choses trop fortes au début. Il compte sur l'inspiration par la suite. Et elle est venue l'inspiration. D'autre part, il approuvait des hôtels provisoires substitués aux hôtels monumentaux ensevelis en des absides lointaines et obscures. Encore dénigrement du passé. Et vive les tables de cuisine à l'église. Donc encore le mépris pour faire passer une nouvelle atteinte grave à la majesté du culte. Certes, notre homme marchait à l'avant-garde des partisans du renouveau, c'est-à-dire du bouleversement de l'Église. Rien qui trahisse des pressions sur sa liberté. Il apparaît au contraire décidé, voire impérieux. Laissé à lui-même, on peut augurer qu'il ira loin dans l'arbitraire anticatholique. Suivons-le au Concile. Dans les débats sur la liturgie, naturellement, il parla en faveur des changements, souhaitant des cérémonies plus simples, en rapport avec les besoins actuels, ces fameux besoins imaginaires qui ne sont qu'un mensonge parmi tant d'autres de l'idéologie maçonnique. Satisfait du texte sur la liturgie, il observait après le vote, écoutez bien ceci, cette discussion a récompensé ceux qui, depuis de longues années, ont travaillé dans le mouvement liturgique pour ramener la prière de l'Église à ses valeurs essentielles, à une expression plus pure et à une plus grande efficacité pastorale. Vraiment, l'Église n'y était pas. Elle n'y était pas. L'Église avait donc perdu des valeurs essentielles. Autant dire qu'elle n'était pas la cité du Saint-Esprit. C'est une hérésie, un blasphème. et qui nous montrera l'expression plus pure et la plus grande efficacité pastorale de la nouvelle liturgie. Vous l'avez constaté, vous ? La désaffection, oui. Le dégoût. Il disait dimanche dernier en Bretagne à des paysans. Je parie que si on vous célébrait la messe traditionnelle dans votre église, avant longtemps, toute la paroisse y serait. Ah, oh, c'est vrai. N'allons pas croire qu'ils sont gagnés, ces gens-là. Non. Ils ne sont pas gagnés. Ils suivent, ils n'ont pas d'autres prêtres. On ne leur fait pas des conférences. Hein. Aussi, il ne faut pas espérer qu'on nous donne des églises. Hein. Enfin, en quoi consiste l'efficacité pastorale et la pastorale elle-même ? Tout le bouleversement actuel est impliqué là-dedans. Un point reste clair, le cardinal milite pour le changement liturgique au mépris de la tradition. Il n'a pas le sens catholique. Il vient d'obligé de le dire. Élu le 21 juin 1963 au poste qu'il occupe, il se manifeste en choisissant le franc-maçon Bugnini pour bouleverser notre messe. Bugnini, et qui par ses hardiesses se fit écarter de l'université du Latran. En ne reculant pas non plus devant la honte de faire appel à 5 puis 6 protestants comme conseillers pour cette ignominie. Que l'on pense donc à cela, aller chercher des protestants? Après on nous a dit, mais il n'était pas conseiller, il était simplement observateur. C'est pour ça sans doute que notre messe ressemble tant au protestantisme. Parlons donc. Ça vous fait bouillonner à l'intérieur. En signant de sa main l'apparente loi qui substituait la nouveauté impie au rite traditionnel qu'il ne pouvait supprimer parce qu'il n'a aucune raison honnête de le faire. Même là où le pape peut changer ce qu'ont fait ses prédécesseurs, il faut des raisons. Là où il peut changer, je veux dire, c'est pas le moment d'expliquer. En ne faisant pas cas du trouble et de la division tragique qu'il a causé parmi le peuple fidèle, surtout peut-être comme il l'a lui-même prévu, il le dit en ses discours lorsqu'il a introduit le nouveau rite. Parmi les âmes les plus pieuses, ce sont les âmes les plus pieuses qui vont souffrir davantage. Est-ce qu'il n'y a pas un principe en théologie qu'il faut respecter précisément la conscience des chrétiens, pia sauris offendam? C'est abominable. Ces braves femmes-là qui peut-être ne savent ni lire ni écrire, mais qui sont toutes baignées dans l'amour de Dieu. Elles ont le sens chrétien, ces personnes. Elles peuvent avoir des tics ou des tacs, si vous voulez, n'est-ce pas? Mais le cœur est à Dieu. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il faut les vénérer, ces personnes. Elles ont le sens chrétien bien mieux qu'un tas de professeurs de théologie qui peuvent emballer les élèves, mais qui n'ont pas beaucoup de piété. Aussi cette réflexion d'un frère chez nous, un scolastique, à l'égard d'un père brillant professeur, il n'y a pas de doute, il est bien connu. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas plus saint, vous qui êtes si instruit? Il lui a demandé un jour au scolastique, terrible. Et le père a répondu, oh, ce qui n'est pas facile. Voyez-vous, et remarquez en passant, comment des professeurs dévoient des élèves dans les séminaires. Comment les directeurs, confesseurs, coulants ont beaucoup de dirigés. Mais ceux qui s'adressent à un confesseur, directeur, coulant choisissent la médiocrité. Et comme c'est la majorité, comprenez que le clergé n'a pas été de taille à tenir tête, à faire face à l'obstacle. C'est là où on s'installe dans la médiocrité. Et à chaque ordination, même si on a un petit feu, n'est-ce pas, de ferveur, chaque ordination, on baisse. Pourquoi? On ne reçoit pas les grâces qui sont proposées. C'est comme ça que s'engendre la médiocrité. Alors après, dans le ministère, qu'est-ce que ça va donner? Malheur, déclare Jésus, malheur à qui scandalise un seul de ces petits qui croit en moi. Et qui croit en moi, non d'une foi théorique et livresque, mais d'une foi vivante et vivace, qui anime toute la conduite. Ils sont les préférés de Dieu. Malheur à qui les scandalise. C'est cohérent avec lui-même qu'il s'opposa au schéma sur les sources de la révélation. Pensez donc, traiter ce sujet, c'était rappeler l'importance essentielle, primordiale de la tradition, c'était bloquer le modernisme. Donc, il devait s'y opposer, bien entendu, et il l'a éliminé lui-même. Notons qu'il reconnaissait, je le cite, les graves erreurs. Tiens, il y a du négatif dans l'Église. Il n'y en avait pas de négatif. Non? Il reconnaît les graves erreurs présupposées par certaines méthodes nouvelles d'interprétation scripturaire. Ah, Dieu sait si les professeurs d'Écriture sainte ont tout massacré. Y compris celui-là qui, à l'université grégorienne, disait en pleine classe, l'Écriture sainte est inspirée, oui, comme moi, quand j'écris une lettre. Ignoble. En d'autres temps, je crois que les élèves l'auraient jeté dans le cul. Donc, il reconnaît certes les graves erreurs présupposées par certaines méthodes nouvelles d'interprétation scripturaire et les redoutables dangers qui s'ensuivent. Mais indigne, il alléguait que le Concile avait exclu tout anathème et toute définition dogmatique. Le monde moderne n'accepte plus ça. On va s'aligner sur le monde moderne. Et le Concile, eh bien, il va rompre avec tous les conciles antérieurs. Ils sont tous, au moins en général. Il va rompre avec eux. Il faut s'aligner au monde moderne. Vous voyez le grand principe? S'aligner sur la mentalité du monde moderne. Ce n'est plus reçu. On pensait donc qu'on va en auto, on va en avion, voyez-vous, et puis la science a fait des découvertes. Stupide. Autre trahison. Paul VI, dit M. Sérafian dans un volume intitulé Le Pèlerin, c'est un diplomate qui écrit ça, c'est très fin, mais Paul VI est son homme. Et le père Wilgen, dans son livre aussi, montre que c'est bien vrai. Paul VI, de propos délibérés et de manière tout à fait consciente, protégeait la collégialité. Notre vénéré Monseigneur Lefebvre pourrait nous en dire long là-dessus. Il était dans la bataille, et glorieusement, de son côté. Il protégeait la collégialité, elle aussi opposée à la structure monarchique de l'Église. C'est sacrilège! De toucher à la structure de l'Église telle que Jésus-Christ l'a conçue. C'est sacrilège, un point, c'est tout. Comment voulez-vous que Dieu bénisse ça? Et les chefs qui font ça, ils tombent sous la malédiction divine. C'est ma conviction profonde que ce crime d'avoir voté la collégialité entraîne la malédiction sur nos évêques. Et c'est comme ça qu'ils ont culbuté, ils ne ressemblent plus à rien, en tout cas pas à des évêques. Ils sont frappés de malédiction par Dieu. Ces extravagances, ces stupidités, ça dépasse la mesure ordinaire, ils n'ont même plus de tenue. Ils n'ont plus de tenue. Même extérieur, lui-même. Il la soutenait au nom de son démocratisme, qui lui fera déclarer le 1er janvier 1970, « La démocratie, cela veut dire que le peuple commande, que le pouvoir provient du nombre, de la population telle qu'elle est. » Il devait savoir, je pense, et que Saint-Pie voyez en ce démocratisme une perversité directement contraire à l'enseignement de l'Écriture. Il n'est nul pouvoir qui ne vienne de Dieu. Un coup de tête tout de même. Écoutez le commentaire de Bossuet à propos de la démocratie. Ce Bossuet, vous. Du jour où une assemblée populaire a imposé à Pilate la condamnation de Jésus-Christ, l'Église devrait savoir que la loi du nombre est capable de tous les crimes. La condition de la fécondité de sa mission se trouve non dans le dénombrement des voix, mais dans la fidélité de son message à la vérité. Relisez le début de l'encyclique de Pastor Eternus, du Concile de Vatican I, que vous avez cité, Monseigneur. Mais rien n'arrête l'obstination des modernistes démocrates. Ils vont, dit Saint Pie X, hors bourg de la doctrine catholique vers un idéal condamné. Aveuglement et obstination dans l'aveuglement. En 1970, quand Paul VI aura doté le synode des évêques d'un secrétariat permanent et celui-ci d'un conseil de 15 cardinaux ou évêques, quelle puissance d'influence! D'autant qu'ils correspondent avec le monde par-dessus les congrégations romaines. La structure de l'Église est détruite. Il dira sa satisfaction démocratiste, c'est ainsi, et que pour le plus grand bien de l'Église se développe la dynamique du Concile. Ainsi se vit la collégialité épiscopale pour le plus grand bien de l'Église. Où place-t-il le bien de l'Église? Il parle en moderniste, pour qui le bien désigne ce que nous appelons bouleversement de l'Église. Comme le communiste se frotte les mains, comme la maçonnerie se frotte les mains, et quand il voit que l'Église est démolie. Et Saint Pie X l'a dit, les adversaires de l'Église applaudissent à l'action des modernistes parce qu'ils voient en eux leurs meilleurs auxiliaires. D'autres disent que c'est le progrès, la libération, le sens de l'histoire, la dynamique de l'évolution, autant de traductions du grand mensonge, vous serez comme des dieux. Satan est le maître, il n'y a pas de doute. Logiquement, il ajoute, nous faisons grand cas du Concile comme d'un don très précieux de l'Esprit Saint. Un Concile qui rompt avec le passé, qui le contredit. Pour se conformer à l'esprit moderne, et il ne peut pas se réclamer de l'esprit saint, voyons. Écoutez encore son enthousiasme, on pourrait en dire très long là-dessus. Il dit à Jean Guiton, l'intérêt de ce volume de Jean Guiton, intitulé « Dialogue avec Paul VI », c'est que Guiton est très ami de Paul, ils sympathisent tout à fait l'un et l'autre. Guiton l'a vu pour la première fois en 1950. Et tenez, j'ai relevé l'impression que lui fit Montini à ce moment-là. Je sais, ça me fait rire. En tout cas, il dit, rien d'ecclésiastique en lui. Il a dit, direct, franc, mais rien d'ecclésiastique. C'est-à-dire pas de cette réserve, certaine retenue, voyez-vous, non. Elle ne vient sûrement pas de l'Esprit Saint. La conviction que l'organisation de l'ONU représente le chemin obligé de la civilisation moderne et de la paix mondiale et constitue le plus sûr et le plus grand espoir du monde. Exactement, ma sœur. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Ce n'est sûrement pas le Saint-Esprit qui soufflait dans la chambre de méditation du Haut Sénat maçonnique à New York. Et le catholique a le droit de renier celui qui ose prononcer cette scandaleuse profession de foi dans la synagogue de Satan. Nous avions confiance dans l'homme, proclamait-il le 2 décembre 1970. Nous croyons en ce fond de bonté qui est en chaque cœur. Nous connaissons les motifs de justice, de vérité, de renouveau, de progrès, de fraternité, qui sont à l'origine de tant de belles initiatives, et jusqu'en tant de contestations, et malheureusement parfois de violence. L'aveuglement. Voici les objectifs proposés à quelques nouveaux cardinaux le 5 mars 1973. Vous êtes à l'avant-garde des grands mouvements qui entraînent l'humanité vers ses destins inéluctables et si difficiles à atteindre pour elle. Nous voulons l'unité, la fraternité, la justice, la liberté vécue dans l'ordre, la dignité personnelle, le respect de la vie, la maîtrise de la terre sans en rester prisonnier, la culture sans en rester dérouté. Est-ce que c'est catholique, ça? Sans doute, le catholicisme produit ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas un idée à la proposer à des cardinaux, et ni à des prêtres, ni aux catholiques. Soyez catholique, le reste rentrera dans l'ordre. C'est tout. Utopie maçonnique que tout cela. La raison de cette ferveur, c'est l'illusion énorme qu'il exprimait en 1963, la révolution française n'avait rien fait d'autre que de s'approprier quelques idées chrétiennes. Fraternité, égalité, liberté, progrès, désir d'élever les classes les plus humbles. Ainsi, tout cela était chrétien, mais tout avait pris une enseigne antichrétienne, laïque et religieuse. Ne voit-il pas que ces idées, proprement, ne sont pas chrétiennes, sont simplement naturelles? C'est tout. Le catholicisme en prend évidemment le naturel. Oui, mais il lui infuse dans notre esprit, il l'informe. Et de la charité surnaturelle particulièrement. Que de plus, ces notions sont perverties, de manière à tromper les esprits non prévenus et à faire passer la révolution antinaturelle et antireligieuse qui est réellement d'essence diabolique. Vous êtes sûr de faire marcher les gens en leur parlant de liberté, de progrès, de bonheur, de paix, etc. Vous êtes sûr de faire marcher. Mais c'est un excellent moyen de les tromper. Bossuet a également une sentence admirable là-dessus. Parlez-leur de liberté, et au nom de la liberté, vous leur ferez faire tout ce que vous voudrez. La liberté, c'est une conséquence. Je veux dire, cette liberté, c'est la libération par rapport aux poussées inférieures. C'est la maîtrise acquise par la fidélité à la grâce de Dieu. Veritas liberabit vos. On parle de la liberté des enfants de Dieu maintenant, mais pour signifier le libertinage. La liberté des enfants de Dieu, et c'est la souplesse que l'on a dans la docilité à l'Esprit Saint. Ceux-là sont libres, bien sûr. Parce que docile à Dieu. Par une autre grossière illusion, il essaie de légitimer le renouveau qui s'affranchit de la tradition et bouleverse dans l'arbitraire. L'humanité est en voie de grandes transformations qui changent profondément non seulement ses manières extérieures de vivre, mais aussi ses manières de penser. Sa pensée, sa culture, son esprit sont intimement modifiés, soit par le progrès scientifique, technique et social, soit par les courants de pensée philosophiques et politiques. Je dis, quelle pitié de voir un homme d'église adopter le mensonge maçonnique, tendant à nous faire croire que l'homme moderne est intimement modifié et qu'il exige une religion également transformée. Cet égarement ne serait pas arrivé si, au lieu de se mettre à l'école de Maritain et autres auteurs profanes, cet ecclésiastique s'était imprégné de la doctrine des papes en matière sociale, s'il avait médité les actes de Pie IX, de Léon XIII, de Saint Pie X surtout, dans l'encyclique Pachandi, dans la lettre de condamnation du Sillon. On paie cher de laisser la vérité traditionnelle et de lui préférer des mythes creux. D'abord, il ne faut pas énumérer pêle-mêle ces causes d'influence sur la mentalité, car leur efficacité ne se ressemble pas et elle s'exerce avec une complexité variable, difficile à analyser. Ensuite, il ne faut pas nous donner à croire que leur effet soit fatal, car l'homme a le pouvoir de résister dans une grande mesure à l'ambiance, voire de la transformer. Ensuite et surtout, que ces changements n'empêchent pas que l'homme soit créature de Dieu. Affecté par le péché originel et racheté par Jésus-Christ qui se continue dans l'Église catholique, il faut bien nous dire cela. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on aille en sabot plein de paille, ou bien qu'on aille en avion, ou qu'on aille dans la lune ou ailleurs? Qu'est-ce que ça fait ça à ma condition au point de vue religieux? Je suis créature de Dieu, et comme tel, je lui dois tout. Et il doit tout lui renvoyer. Tout doit être référé à Dieu, comme dit saint Thomas dans une formule merveilleuse. Tout ce que l'homme est, tout ce qu'il peut, tout ce qu'il a, doit être rapporté à Dieu. Voilà la religion. Qu'est-ce que ça peut faire? Sachons renvoyer les gens quand ils veulent nous dire qu'il faut changer parce que le progrès moderne a modifié l'homme. Qu'est-ce qu'il a modifié dans l'homme? Oui, les mouvements d'impiété, de neutralisme, de laïcisme, d'athéisme, ces mouvements, ah oui, transforment la mentalité, laquelle après, ben, transforme d'autres choses. Voilà le mal, mais il signera pas ça. Mais bon, il est dans le matériel, comme la franc-maçonnerie. Si l'homme moderne s'insurge contre Dieu et contre son Église, ce pourquoi il est condamné par notre Seigneur, n'est-ce pas renier le catholicisme que d'aimer et admirer ce monde livré à la puissance satanique et tombé dans l'apostasie? N'est-ce pas l'heure de lui crier plus que jamais la vérité révélée qui seule peut sauver les âmes de bonne volonté? C'est le moment ou jamais, bien sûr, de crier la vérité catholique et entière, avec une vigueur apostolique. C'est évidemment ça qu'il faut faire. Ce n'est pas des accommodements, pas du café au lait qu'il faut leur donner. C'est insensé, c'est impie de demander à l'Église de servir le monde, comme il a dit, de le mettre en valeur et de le soutenir et de le sauver. C'est insensé, c'est impie de nous prêcher le culte de l'homme et d'affirmer que la fin de l'Église, c'est le développement intégral de l'homme. Ça peut se comprendre. Mais l'optique dans laquelle il se place pour dire que le but de l'Église, c'est le développement intégral de l'homme, mais c'est du maritanisme. Le développement intégral suivra si vous en faites des saints. C'est-à-dire de vrais catholiques. Jésus-Christ ne nous a pas prêché un faux humanisme intégral, mais le règne de Dieu et la mise en ordre qu'il instaure partout. Et il nous a dit qu'il ne faut pas adorer autre chose que Dieu. C'est renier Jésus-Christ, son évangile et son Église, que de vouloir nous donner un christianisme sans esprit de pénitence et de renoncement. Le christianisme nouveau, mensongèrement dit stimulant et positif, a mis de la vie, des hommes, des valeurs terrestres, acceptables et aimables, indulgents et ouverts, débarrassés de tout rigorisme moyenâgeux, de toute interprétation pessimiste des hommes, de leur mort. C'est ça qu'il faut prêcher, par exemple. Nous refusons ce dénigrement impie inspiré du naturalisme maçonnique. Il faut avoir perdu le sens chrétien pour le recommander. La tirade sur l'émancipation continue. Nous allons avoir une période de plus grande liberté dans la vie de l'Église. Et par conséquent, pour chacun de ses fils, cette liberté signifiera moins d'obligations légales et moins d'inhibitions intérieures. La discipline formelle sera réduite. Tout arbitraire sera aboli. Seront abolis également toute intolérance et tout absolutisme. 9 juillet 1969. Plus que ça. Tout l'évangile, tout le passé chrétien condamne ces propos de l'homme révolté contre Dieu et son Christ, livré à la déraison, à l'arbitraire, des instincts et des vices. Et comme il se coupe de la tradition, il est en plein dans l'arbitraire, voyons. Comme il se coupe du passé, il met la division. Il est le premier désobéissant. Il vient me demander de lui obéir. Pardon, commencez par obéir. Alignez-vous. Vous comprenez en même temps. Pourquoi? Pour nous maintenant, qu'est-ce qu'il faut? La tradition. Mais scrutons la tradition. Les chefs sont là pour maintenir la tradition. Et pour nous aligner nous-mêmes à la tradition. Mais je ne connais pas d'autre alignement. Et m'excusez. Tenez encore une part. Il y en aurait bien d'autres à dire, il n'y a que la moitié. Pour juger l'arbre à ses fruits, notons l'aveu du 7 décembre 1969. L'Église se trouve dans une heure d'inquiétude. Tiens, il y a du négatif. D'autocritique. On dirait même d'autodestruction. C'est comme un bouleversement intérieur, aigu et complexe. Comme si l'Église se frappait elle-même. C'est toujours lui. Parlons plus juste. Ce n'est pas l'Église qui se frappe elle-même. Instituée par Jésus-Christ, elle n'a rien en elle qui engendre l'inquiétude, l'autocritique, l'autodestruction. Entendez. Elle est pure, elle est sans tâche. Elle est irréprochable. Parce que l'œuvre de Dieu, si Dieu fonde une religion, je pense qu'il s'y entend. Elle est vérité, paix, harmonie et vie toujours plus belle, C'est la contre-église qui, ayant gagné nos chefs déserteurs, sème le désordre, la division et la corruption dans l'église de Dieu. Ce cancer, il y a longtemps, il le favorise, lui-même, sous le faux nom de renouveau. Le désenchantement revient le 15 juillet 1970. Dans de nombreux domaines, le Concile ne nous a pas donné jusqu'à présent la tranquillité, mais il a plutôt suscité des troubles et des problèmes non utiles au renforcement du royaume de Dieu dans l'Église et dans les âmes, je crois bien. Cette fois, oui, c'est bien le Concile même, parce qu'il a rompu avec la tradition et qu'il voulait ouvrir un grand dialogue avec le monde moderne, opérer un rapprochement avec tous les séparés, réaliser une nouvelle épiphanie, une nouvelle recherche de Dieu, donc briser avec le passé de l'Église. Voilà bien le Concile qui a mis le désordre dans l'Église, assurément, dans de nombreux domaines et partout. La religion catholique est méconnue maintenant. Si vous voulez juger du catholicisme d'après ce qui apparaît, un regard, on est assez superficiel, je vous défie de vous faire une idée du catholicisme. Vous ne pouvez pas. Même par ce qui nous arrive officiellement. Parce que les officiels, ils ont rompu. C'est tout. Eh bien, c'est abominable. Le nom de Dieu est blasphémé par vous, dit saint Paul. Vous avez défiguré l'épouse de Jésus-Christ. Vous avez défiguré Jésus-Christ. Parce que l'Église est évidemment un grand témoin. Comme une épouse, n'est-ce pas? Alors, c'est abominable. Ça n'a pas de nom. Comme péché. Eh bien, l'abomination de la désolation dans le lieu saint à Église, lieu saint à Saint-Pierre de Rome, lieu saint à nos églises, lieu saint partout, il y a du catholicisme, partout de l'abomination, une désolation abominable, c'est-à-dire au plan religieux, au plan où est détruit le sacré. Troisième et plus grave aveu, le 29 juin 1972, la fumée de Satan est entrée par quelques fissures dans le temple de Dieu, le doute, l'incertitude, la problématique, l'inquiétude, l'insatisfaction, l'affrontement se sont fait jour. On ne se fie plus à l'Église, le doute est entré dans nos consciences. Abominable. Si le Concile a donné ses fruits néfastes, reconnaissez, et que l'Esprit Saint n'en a pas été l'inspirateur. Il ne pouvait pas l'être, évidemment, à cause de la fissure ou rupture sacrilège perpétrée avec l'Église traditionnelle. Et l'on sait que l'archevêque de Milan y travaillait avec une ardeur insensée. Pour reprendre le jugement désolé de saint Pie, il était sûrement de ceux qui accueillent et adoptent avec une grande facilité certaines idées de conciliation de la foi avec l'esprit moderne, idées qui conduisent beaucoup plus loin qu'on ne pense, non pas seulement à l'affaiblissement, mais à la perte totale de la foi, c'est-à-dire à l'apostasie. Presque toute la plainte du magnanime saint Pie s'applique à celui dont on parle ici. Il est bien de ces personnes qui se délectent de mots très vagues, d'aspirations modernes, de force du progrès et de la civilisation, en affirmant l'existence d'une conscience laïque, d'une conscience politique opposée à la conscience de l'Église contre laquelle on prétend au droit et au devoir de réagir pour la corriger et la redresser. On dirait que c'est écrit de nos jours. Saint-Pie, le patron qui inspecte l'horizon, le grand veilleur autour, au sommet des tours de l'Église. Donc je m'arrête là, excusez-moi.